nous lisons en Éphésiens chapitre 4, nous avons regardé dimanche dernier un passage qui n'est pas facile, il vrai dire, à propos de la marche païenne. Paul, pour expliquer ce qu'est la marche du croyant, explique d'abord ce qu'est la marche païenne. Et on a regardé ensemble au verset 17, on va le relire pour se replacer dans le contexte. Hein. Chapitre 4 d'Éphésiens, au verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Donc c'est une déclaration inspirée par Dieu. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont liés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et Paul continue son texte, c'est ce que nous allons voir ce matin, du verset 20 au verset 24. Mais, alors ce mais est important ici dans la transition que fait Paul pour décrire ce qu'est la marche du croyant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, vous en contraste avec le monde païen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Il y a ici un premier verbe clé, vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Deuxième verbe important, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Troisième verbe clé ici, dans ce passage, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors ce matin, on va regarder ensemble Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Et le titre du message, c'est « La marche en nouveauté de vie ». Savez-vous que Dieu dit que le jour où on l'accepte, on commence à marcher dans une vie nouvelle. La question qu'on doit se poser ici ce matin, c'est savoir comment est-ce que nous marchons. Qu'est-ce que nous vivons jour après jour, quotidiennement, dans notre vie chrétienne? Elle est comparée à une marche, donc il y a un rythme, il y a une direction, il y a une certaine énergie, il y a des prises de position, il y a une pratique, un apprentissage. Comment est-ce que nous marchons et pratiquons dans la vie chrétienne? Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, en fait, au verset 17 jusqu'au verset 32, si vous me permettez, on va regarder juste un petit peu le survol. À partir du verset 17, on a déjà vu au chapitre 4, les premiers versets, la description de la marche digne qui amène verset 4 à 6 l'unité. Et puis verset 7 en résumé, verset 7 à 16, la croissance de l'Église. Et puis Paul parle maintenant de la vie personnelle. Alors on pourrait diviser ceci comme cela, à partir du verset 17, il y a la conduite chrétienne. Paul s'intéresse à voir le fruit dans la vie chrétienne, pas simplement à entendre « je suis chrétien », mais dis-moi, quelle est ta vie? Comment te conduis-tu? Est-ce que tu portes vraiment les fruits d'une vie chrétienne authentique? Donc Paul ici, dans l'Épître aux Éphésiens, dans les trois premiers chapitres, comme dans beaucoup d'Épîtres, il donne une partie théorique. Ce que nous sommes en Christ, c'est extraordinaire, l'Épître aux Éphésiens. On a vu ça il y a quelques mois déjà, je reprends l'Épître aux Éphésiens. Et à partir du chapitre 4, il tombe sur le côté pratique. C'est bien de savoir, mais maintenant il faut savoir faire. Il faut mettre en pratique ce que Paul nous enseigne sur ce que nous sommes en Christ, ce qu'est l'Église, comment vivons-nous personnellement? Alors, quelle est notre conduite chrétienne dans notre vie personnelle? Seul devant Dieu, et seul devant Dieu, mais entouré des autres, dont notre conduite envers les autres, n'est-ce pas, reflète beaucoup notre communion, notre intimité, notre relation avec Dieu. Alors, la conduite personnelle, la vie personnelle, on voit ça du verset 17 à 32, que personnellement j'ai divisé en trois, versets 17 à 19, ce qu'est la marche païenne, versets 20 à 24, ce qu'est la marche à nouveauté de vie, et verset 25, vivre selon les principes, n'est-ce pas, de bibliques. Mais ici, donc, on a la vie personnelle, verset 17 à 32, la vie en société. Le croyant est au milieu de gens dans lesquels il vit, il a un comportement dans la société. Et bien sûr, et c'est un des passages clés, n'est-ce pas, qu'on utilise lorsqu'on parle de famille, de foyer, lorsqu'on parle de relations mari et femme et de famille, au verset chapitre 5, verset 22, jusqu'au verset 9. Et ensuite, on parlera du combat spirituel. Donc, le croyant, et Dieu a inspiré cela, il a une conduite qui devrait être remarquée dans sa vie personnelle, dans sa vie là où le Seigneur l'a placé, dans le monde, société où il vit, et au sein du foyer. Juste une petite remarque d'ailleurs, rapidement, c'est étonnant que la Bible est tellement riche, dans le Nouveau Testament, qu'il y ait très peu de versets bibliques qui parlent de la vie en famille. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a tout un livre, notamment le livre des Proverbes, qui parle de la façon avec laquelle on devrait élever les enfants et vivre en famille. Mais le passage, évidemment, ici, en Éphésiens, chapitre 5, verset 22, qui commence au verset 22 jusqu'au verset chapitre 6, verset 9, parle de la vie en famille. Alors, ça, c'est pour vous donner un peu le survol de ce qui est à venir devant nous et de ce qu'on regardera. Ici, nous avons au verset 17 à 32 la vie personnelle caractérisée par la marche du croyant. Et tout d'abord, l'apôtre Paul nous a dit qu'il fallait répudier la vie ancienne en décrivant la marche du païen, qui représente quelque part notre vie ancienne. Le croyant est appelé à répudier sa vie ancienne, à faire une croix, à dire « bye bye ma vie passée ». Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mon ancienne vie, c'est du passé, je tourne la page et maintenant je vais marcher en nouveauté de vie. Mais l'apôtre Paul a un fardeau, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont vraiment chrétiens et de nouveau. Et aussi, il a un autre fardeau, c'est que tous ceux qui sont nés de nouveau, ayant bien commencé, parfois manquent de persévérance pour vivre selon le plan de Dieu, les standards de Dieu. Gardons-nous de vivre selon nos propres standards, mais Dieu nous appelle à vivre selon les standards de la parole de Dieu, les standards de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et ce qu'il veut, c'est qu'on renonce à la vie ancienne, comme elle a été décrite d'ailleurs par Paul, un tableau, n'est-ce pas, assez cru, mais tellement vrai, parce que ça représente le monde dans lequel nous vivons, et ça représente aussi, il faut le dire, la capacité du croyant de pécher. Et peut-être, dans ce qui est mentionné, certains d'entre nous avons vécu ce que l'apôtre Paul décrit comme étant la marche du païen. Un païen sans Dieu, sans la vie de Dieu, privé de Dieu. Ensuite, Paul nous appelle au verset 20 à 24 à marcher en nouveauté de vie. Pour cela, connaître Christ. Et puis, changer d'homme. Alors, on va expliquer ce terme-là en lisant le texte ensemble. Connaître Christ, changer d'homme. Et ensuite, on verra plus tard ce que c'est que vivre selon les principes de la vie nouvelle, la conduite pratique. Voilà, Paul dit maintenant, ne marchez pas comme cela, marchez comme cela en Christ. Et voilà, de la façon pratique, notamment, les points où vous pouvez exercer votre vie en nouveauté de vie. Alors, on va regarder ensemble ce qu'est la marche du croyant. Un petit rappel rapide, ce que Paul mentionne comme répudier sa vie ancienne. Nous devons être convaincus que nous ne devons plus marcher comme des païens. La marche du païen est caractérisée par plusieurs choses. Au verset 18... verset 17, tout d'abord, la vanité des pensées. On ne va pas retourner dans le message de dimanche dernier. On a expliqué chaque trait de caractère du païen qui vit privé de Dieu. Vanité des pensées, intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire privé. Étranger, c'est privé de la vie de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, insensibilité, qui amène automatiquement le dérèglement, l'impureté et la cupidité. Et là, le texte, on a vu le mot grec, n'est-ce pas, commettre toute espèce d'impureté, il y a l'idée de tirer profit. Tirer profit comment? En faisant du commerce. En profitant du commerce du sexe pour retirer de l'argent. Mais c'est vraiment évident que ça n'a pas disparu du temps de Paul à Corinthe, à Rome. Cette industrie du sexe, si je peux m'exprimer ainsi, existait. Eh bien, ça n'a pas malheureusement disparu. Encore aujourd'hui, cette industrie, même elle est florissante et entraîne par la convoitise beaucoup de péchés dans la vie des hommes. Donc c'est un danger. Et ça, c'est le reflet du cœur humain privé de Dieu. Il a une vanité dans les pensées. Donc ces pensées le conduisent vers autre chose que le plan de Dieu. Le péché, hein, le mot grec, ça a l'idée de rater la cible, rater la volonté de Dieu. L'intelligence obscurcit parce qu'il n'est pas éclairé par Dieu. Tant que l'intelligence n'est pas éclairée par Dieu, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais je verrai la lumière de la vie. Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 2, je suis la lumière du monde. Ils ne connaissent pas Christ, étrangers à la vie de Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Et on a lu tout le chapitre, en partie du chapitre Romains chapitre 1, verset 18, après, à la fin, qui montre comment Dieu livre, au sens réprouvé, les hommes lorsqu'ils se dirigent dans l'idolâtrie. Et comment Dieu, finalement, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, accentue quelque part les conséquences de l'éloignement de Dieu, les femmes s'enflammant les unes avec les autres, les hommes aussi, et toute la liste des péchés qui n'est pas exhaustive qu'on voit dans Romains chapitre 1. Tout ça, j'ai voulu le rappeler, parce qu'il y a ici un espoir. C'est que Paul prend, au partir du verset 20, on va relire le texte si vous permettez, il y a un « mais » ici. « Mais vous ne vivez plus maintenant selon les païens parce que vous n'êtes plus païens. Parce que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et à instruire, puis il y a les trois verbes principaux, se dépouiller, être renouvelé, revêtir l'homme nouveau. Mais s'il y a trois verbes clés, apprendre, entendre et être instruit dans le passage ici. Alors, je ne vais pas utiliser trop longtemps le PowerPoint, mais connaître Christ dans les versets 20 à 21, c'est sous la forme de trois verbes, apprendre, entendre et être instruit. J'aimerais qu'on puisse lire en 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Est-ce que vous voulez bien tourner dans vos Bibles en 1 Pierre? C'est bon de tourner les pages de la Bible et puis de regarder où se trouvent des passages. En 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Alors n'oubliez pas que le texte ici, à partir du verset 20, commence par un grand « mais » éclatant. C'est extraordinaire le contraste entre la vie du païen et la vie du croyant. En tout cas, ça devrait être comme ça. Il doit y avoir une différence entre ce que vit le croyant comparé à ce que vit le païen. Vous au contraire, le vous c'est contraire au païen, ou en tout cas vous au contraire, ceux qui connaissent Jésus-Christ, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, il y a plusieurs auteurs dans le Nouveau Testament qui nous exhortent à fuir la convoitise et le courant de ce monde, même si on est dans ce monde, hein, on dit souvent on n'est pas du monde. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est intéressant ici parce que le verbe grec est à l'aoriste. L'aoriste qui n'existe pas en français, c'est un temps d'une action précise passée qui a des conséquences dans le présent. Vous avez remarqué certainement avec moi que le temps ici, les trois verbes en fait sont à l'aoriste. Vous avez appris Christ, vous l'avez entendu et vous avez été instruit. L'idée c'est qu'il semble que Paul dit, mais vous qui avez connu tout cela, comment pourriez-vous encore marcher comme des païens si vraiment vous avez appris Christ? Si vous l'avez entendu, dans le sens, vous avez été attentif, puis vous l'avez reçu, c'est ça que ça veut dire, et vous avez été instruit, temps passé, comment maintenant, aujourd'hui, vous seriez tenté à vivre encore comme des païens? Le temps est au passé. Quand on reçoit le salut en Christ, c'est le départ, c'est la base de la vie nouvelle. Mais Dieu veut qu'on continue à marcher. Ce qui est intéressant ici, c'est que le verbe « vous avez appris Christ », le verbe grec ici vient du mot « disciple ». Élève, je suis un apprenti de Christ, je suis un élève de Christ. Mais je suis un élève de Christ de suite que j'ai accepté le Seigneur. Apprendre Christ, c'est le recevoir, c'est naître de nouveau, c'est recevoir la vie d'en haut, et on cesse de s'agiter et d'agir par soi-même, par les œuvres pour être sauvé, parce qu'on le reçoit par grâce, on reçoit la vie d'en haut, et ensuite on marche en nouveauté de vie, mais on reste un disciple de Christ. Voyez-vous, le jour où on accepte le Seigneur, on a appris Christ, on est un élève de Christ au moment même de la nouvelle naissance. Mais ce n'est que le début de l'école. La rentrée scolaire, la rentrée universitaire, n'est-ce pas, ça dure quelques mois. Nous, en tant que chrétiens, notre rentrée, une fois qu'on a été sauvé, on est rentré dans l'âme de Dieu, on est à l'école du Seigneur pour toujours. Et c'est merveilleux cela, parce que notre maître ne se lasse jamais. Il ne prend pas de vacances, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne se repose jamais parce qu'il nous regarde, enfin il est dans le repos, c'est extraordinaire. Il est tout actif, tout le temps en repos. Ça, c'est un problème qu'on a parfois, nous. Hein. On est actif, puis on n'a pas de repos. Quand on est au repos, on perd l'action. Je sais pas. L'équilibre, là, c'est Christ, vraiment, hein, même dans ce domaine. Mais ceci dit, vous avez compris, Dieu s'occupe de moi. Le jour où j'accepte le Seigneur, il s'occupe de moi. Je suis né de nouveau. Non seulement je suis sauvé, mais je suis continuellement sauvé. On ne croit pas qu'on perd le salut. Mais c'est l'idée, une fois sauvé, je continue à marcher dans le salut. Je continue à marcher en Christ. La question ici, je pense, qui est sous-entendue, est-ce que vraiment chacun de nous ce matin, et je le dis par grâce, parce que, avec humilité, parce qu'on a tous nos combats, mais est-ce qu'on est en Christ ce matin? Est-ce que vraiment, cette semaine, on a vécu en Christ, en nouveauté de vie? Est-ce qu'on a mis en pratique ce qu'on a appris? Le salut en Christ. Est-ce qu'on a mis en pratique ce qu'on a entendu? Et j'aime beaucoup l'expression de Paul, je crois que c'est Éphésiens 13, voilà, je vous le lis. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. » Entendre. C'est incroyable ce que parfois les gens entendent, mais ne retiennent pas. Entendre, ça veut dire, entendre, là, ça veut dire être attentif. Ça veut dire vraiment mettre en pratique, recevoir, être réceptif, être attentif, être à l'écoute. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La vérité est en Jésus. Et il y a un piège pour nous, les enfants de Dieu, reconnaissons-le. Nous avons bien commencé avec le Seigneur, mais rapidement, on s'aperçoit qu'on chute, qu'on a besoin de retourner vers le Seigneur. Et que finalement, la vie chrétienne, bien sûr, c'est un engagement, mais c'est laisser le Seigneur vivre dans nos vies, dans toute sa vérité. La vérité au sujet de Dieu, qui est Dieu. La vérité au sujet de l'homme, qui est l'homme selon Dieu. La vérité au sujet de la création, du péché, de la justice, de la grâce, de la foi, du salut, du ciel et l'enfer, dans la vie après la mort. En fait, la vérité absolue, c'est en Jésus. Et nous devons apprendre à centrer nos vies sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Reconnaissons que parfois, nous décentrons nos vies de Jésus. On peut être actif, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que ma vie est en Jésus? Alors, j'aime beaucoup le passage, je vous le lis. Si vous voulez tourner avec moi, vous êtes le bienvenu. En 1 Jean, chapitre 5, et verset 20, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est un... Je dis une petite parenthèse, je fais une petite parenthèse rapidement. C'est vraiment un passage que les témoins de Jéhovah ont falsifié dans leur traduction, le Nouveau Monde. Ils ont carrément falsifié l'original, le grec, pour arriver à leur traduction. Mais on a la bonne traduction, ça demeure sous nos yeux, et je vous la lis. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Si vous avez reçu l'intelligence et que vous connaissez le véritable, vous pouvez vous réjouir. » Parce que ça veut dire que vous ne vivez plus dans le mensonge, vous ne vivez plus dans les ténèbres, vous vivez dans la lumière, dans la vérité qui vous a franchi. C'est merveilleux. Et qui sait la vérité? Pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors dans le grec ici, c'est très clair que Jésus est Dieu. Alors évidemment, témoin Jéhovah vont falsifier le texte. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable en lui. Alors, je vais vous demander un petit exercice. Tournez dans vos Bibles, pas loin. Rassurez-vous, ce ne sera pas difficile. Tournez en Éphésiens, chapitre 1 et verset 3. Et on va regarder les « en lui » de quelques passages d'Éphésiens. Parce qu'on parle de vérité et vous avez été instruit en lui. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une église. Bien sûr, l'église, c'est l'amour et l'objet de la tendresse de Dieu et la colonne et l'appui de la vérité. Mais c'est Christ qui doit nous enseigner. Alors, soulignons ensemble l'expression « en lui ». Vous y êtes avec moi ? Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit ? « Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Moi, ça m'encourage ce verset. Quand je suis à terre, je me dis « Oh, mais attends, tu es assis là-haut dans le ciel, n'oublie pas. Tu es l'objet, l'amour, la bénédiction de Dieu éternel en Christ. Ça ne dépend pas de ma condition, c'est en Christ. » Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc je peux toujours aller et me réfugier en lui qui ne change pas. Parce que je suis béni en Christ. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Donc j'ai juste qu'à réclamer, à vivre ce que Dieu m'a déjà donné. Amen. Verset 4. Hein. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc en lui, je suis un élu. Verset 7. Hein. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, je suis racheté. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Je suis héritier en Christ. Héritier du ciel, la terre. C'est extraordinaire, cela. Les croyants, reconnaissons, frères et sœurs, que nous avons une tendance à nous plaindre et à murmurer. Vous avez déjà lu l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. On m'a dit, qu'est-ce qu'ils murmurent, ces gens-là, quand même. Mais nous faisons pareil, nous. Vous n'avez pas remarqué? C'est plus ou moins évident, hein, chez nous, dans nos cœurs, tout seul, devant Dieu ou devant les frères et sœurs. Et puis, la Bible dit qu'on est héritier. Attendez, je suis héritier. Je suis en route pour le ciel. Je vais héritier du ciel avec Christ. Le ciel, c'est l'univers. C'est le ciel à la terre. Vivre avec lui pour toujours dans la gloire éternelle. Je peux me réjouir comme ça. Je suis un héritier. Il a fait de moi un héritier. Je ne mérite rien. Vous avez peut-être espéré un héritage, je ne sais pas, un cadeau. Mais là, le cadeau est là. Le ciel. Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin d'avoir cet héritage? Et puis il est écrit en lui, vous avez cru, vous avez été scellé. Ouf, je suis scellé. C'est pas un jour, j'ai la marque de Christ, un autre jour ça disparaît. Non, je suis scellé, un sceau éternel. Et puis, verset chapitre 2, verset 22, on est obligé de passer rapidement. En lui, vous êtes aussi édifié pour une habitation de Dieu en esprit. Dieu ne nous laisse pas seuls, il nous bénit en tant qu'individu, il nous place dans un corps, l'église. C'est pour ça que l'église est tellement importante et on édifie les autres. Et on s'édifie les uns les autres. Je suis édifié par les pierres voisines à moi, avec le lien de l'amour, n'est-ce pas, et de la perfection. Et je grandis, et j'essaie aussi, par la grâce de Dieu, consciemment ou inconsciemment même, d'être une bénédiction pour les autres. Par le lien de l'amour, vous êtes édifié. C'est merveilleux cela. Moi, je ne peux pas me passer de l'église, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas me passer de l'église. C'est une famille, la famille de Dieu. Je ne peux pas me passer de l'église, parce que c'est le plan de Dieu. Et je suis fait pour vivre dans la famille de Dieu. Verset chapitre 3, verset 12, il est écrit « En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous rapprocher de Dieu avec cette confiance. » Avant, j'avais des craintes. Moi, on m'a présenté un Dieu, un père fouettard. Et le jour où j'ai compris que Dieu est un père d'amour, alors j'ai un accès auprès de lui. J'ai plus de craintes. Je suis un fils établi, je suis adopté éternellement. Et maintenant, j'ai une relation d'amour avec mon Père céleste qui prend soin de moi. Et puis, on reprend notre texte, verset 21. Vous avez en lui été instruits. Donc, c'est fait. Nous avons été instruits. Trois choses. Comment marcher en nouveauté de vie? Ça, c'est une bonne question. Comment marcher en nouveauté de vie? Eh bien, la première chose, c'est se dépouiller. La deuxième chose, on va regarder ça, c'est d'être renouvelé. Et la troisième chose, c'est revêtir l'homme nouveau. Vous n'avez jamais été dans une période de votre vie où vous étiez las de votre vie chrétienne. Puis il semble que le péché est parfois, n'est-ce pas, frappe à la porte. Et comment faire? Comment faire? Comment faire pour vivre en nouveauté de vie? Ben, c'est prendre position. Et la Bible dit qu'on doit se dépouiller, qu'on doit être renouvelé, se revêtir. Alors c'est une action permanente. On a été instruit à le faire et maintenant on doit le vivre quotidiennement. C'est pour ça que quand on prépare, par exemple, les gens au baptême, on arrive à un moment donné à expliquer ce que le symbole du baptême. On ensevelit la personne dans l'eau, enfin, on la plonge dans l'eau, c'est le symbole de l'ensevelissement à la mort de Christ. Elle ressort de l'eau, c'est l'identification, le symbole d'identification à la résurrection de Christ. Mais savez-vous quoi qu'on doit vivre quotidiennement cela? Je suis mort en Christ, je suis ressuscité en Christ. Maintenant, je ne suis pas mort, je ne dois pas mourir tous les jours. Je suis déjà mort à la croix quand Christ est mort pour moi. Je suis déjà mort. Maintenant, en le recevant, je découvre que je suis mort avec lui et que je suis en lui. Donc, à se dépouiller, et on va regarder ensemble. Alors, peut-être je vais vous lire les textes un peu pour gagner du temps, si vous me permettez. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? Vous avez déjà pensé à ça? Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? Le vieil homme, hein? Un vieil homme, on dit voilà, il est vieux. Ça c'est l'extérieur, l'homme extérieur. Le vieil homme, c'est quelque chose à l'intérieur. Qu'on ait 10 ans, 20 ans, 80 ans, comme mon papa très âgé maintenant, eh bien, le vieil homme, c'est la nature pécheresse. Je n'ai pas demandé de naître sous l'égide d'Adam, mais pourtant Adam, c'est mon ancêtre. En naissant, je n'ai pas crié « Alléluia Seigneur ». Et puis avec les premières années, mon caractère a vite montré que j'étais un enfant rebelle à Dieu. Un jour, quand Dieu m'a sauvé, alors j'ai eu une nouvelle vie. Mais en ayant cette nouvelle vie, je me suis dit « Oh, mais il y a encore un homme là, un principe de péché qui veut toujours être là. » Puis il les frappe à la porte, il se tient et on dirait qu'il ne me lâche pas. Il ne lâche jamais. C'est pour ça que Paul dit « Je ne fais pas le bien ». Que je veux, je fais le mal que j'ai. Qui me délivrera de ce corps mortel? C'est pas que le mal est dans le corps physique, mais le mal est dans l'esprit de l'homme qui, en naissant, est pécheur, et par sa nature pécheresse, c'est comme une loi physique, comme la loi de l'apesanteur. Il est capable de toujours pécher. Il se lève le matin, le vieil homme est là. Il se couche, le vieil homme est là. Il marche dans la rue, il marche, va à l'église, le vieil homme est là. Maintenant, le vieil homme, il y a deux façons de le traiter. Soit on le nourrit, on l'alimente, il prend beaucoup de place, soit on cesse de l'alimenter, de le nourrir, on le fait jeûner et il est ce qui devrait être mort. Alors ça, c'est une vérité, je dois dire, qui n'est pas évidente à comprendre. Je vous invite à lire, à relire, même à apprendre par cœur les trois chapitres de Romains, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, pour découvrir ce que c'est que de mourir en Christ. Alors, j'ai marqué, si vous me permettez, je vais trouver les passages ici. Alors, où est-ce que j'ai mis mon vieil homme? Mon vieil homme, où est-il? Par là. Bon, je vais trouver. Alors, j'ai une liste ici. C'est le moi. Pourtant, je suis sûr de l'avoir noté quelque part. Voilà. Bon, je vous les lis. Je voudrais qu'on gagne un peu de temps. Permet de terminer ce matin, j'ai trois points là. Donc, Romain tout d'abord. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? D'abord, j'ai marqué, c'est le moi irrégénéré. Nous savons en effet, Romains 7, 14 et 18, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est dur ça, de réaliser ça un jour. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc c'est la puissance de la chair. Galates 5, versets 16 et 17, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc quand je me convertis, je découvre que j'ai un ennemi. En plus du diable, en plus du monde et l'esprit du monde, c'est moi-même, c'est le vieil homme. C'est la chair dans mon être, le principe de diriger ma vie sans Dieu, sans laisser entièrement Dieu au contrôle. Romains 7, 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Une loi, c'est quelque chose qui se répète. Et Paul dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » C'est pour ça que Colossiens dit par exemple, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme produit des œuvres. Et si on est attentif à sa vie, on voit rapidement si on vit par l'esprit ou par la chair. Parce que le vieil homme produit des œuvres. Et évidemment, vous en doutez, on le sait, ce n'est pas de bonnes œuvres préparées d'avance, c'est des mauvaises œuvres. Ne mentez point les uns aux autres, sachant que notre vieil homme, Romains 6,6, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc voyez-vous, cette loi du péché, comme une loi de pesanteur, je l'ai toujours sur moi, en moi. Mais il y a une nouvelle loi, étant donc affranchi de la loi du péché et la mort, l'Esprit de Dieu m'a affranchi. Ça, je vous le lis de mémoire, je pense que j'ai un peu changé le verset, donc je vais vous le lire exactement, c'est Romains 8, je vous le lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la seule façon pour nous, frères et sœurs, d'être délivrés, c'est de mourir. Maintenant, vous dites à quelqu'un, es-tu prêt à mourir ? À mourir à quoi ? Bon, un jour, j'ai un jeune frère dans l'église qui m'a joué un tour, il est venu me voir, il m'a vraiment surpris, il m'a dit, mes condoléances, pasteur. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit, oui, vous êtes mort au péché. Ah, j'ai retenu cela. C'était une façon humoristique de dire, ben écoute, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est mort au péché. Parce que le vieil homme, la Bible dit ici, si vous lisez, alors pour montrer qu'on n'a aucune, solution à embellir le vieil homme, à le rafistoler, des fois on prend tournevis, des marteaux, on patche, on cache un petit peu les trous, on prend le rouleau, vous savez, caché, je fais semblant d'eux, alors qu'en fait, il y a des gros trous, mais j'essaie de mettre un bon ruban d'hypocrisie, etc. Et puis Dieu nous dit, non, non, Dieu, il a l'art de nous dire juste là, ça ne va pas. Reconnaissons-le. Chacun de nous, il y a un endroit où ça ne va pas. Hein? C'est vrai? Ça va, vous? Il y a quelque part, ça ne va pas. Parce qu'on a une lutte, on a un combat. Alors, par rapport à votre vie du vieil homme qui se corrompt, on n'a pas besoin de rafistoler le vieil homme, de le rendre beau, le vieil homme, comme si ça pouvait l'améliorer. On a cette tendance d'améliorer le vieil homme. En fait, on veut s'améliorer. Hein? On veut pareil, on veut s'améliorer, vivre dans ses propres efforts, la vie chrétienne. Eh bien, la Bible dit non, parce que le vieil homme, vous savez quel est le travail du vieil homme? C'est dur d'entendre ça, hein? Je ne sais pas vous, mais j'aime pas ça quelque part. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme pourrit notre être. Il pourrit notre être. Il se corrompt, ça veut dire qu'il pourrit, puis il pourrit par les convoitises trompeuses. Tromper, c'est induire en erreur, non? Donc ça veut dire que le vieil homme, il est toujours en train de nous induire en erreur. Comment le redresser? Ou plutôt comment le laisser mourir? Mais avec le redresser avec la vérité. Ta parole est la vérité. En fait, on a ce combat. Et Pierre disait, et Pierre a compris, hein, vous savez, Pierre et Paul, dans les principes de sanctification, ils disent la même chose. Pierre, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Paul a dit, hein, à cause de l'ignorance qui est en eux, les païens. Nous, maintenant, nous savons. Nous avons la connaissance. Maintenant, la connaissance doit mener l'expérience. Et dans les mots grecs sont deux mots différents. L'expérience, c'est la vraie vie avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Pas une connaissance simplement intellectuelle des choses spirituelles, mais une connaissance véritable qui est Dieu. La Bible dit, n'aimons point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que c'est la convoitise? Qu'est-ce que c'est la convoitise? Je vais vous dire ce que c'est la convoitise. La convoitise, c'est le désir immodéré de posséder. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est se glorifier à tort toujours de ce que l'on a, de ce que l'on possède, de ce que l'on fait. Ça, c'est l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est de vouloir posséder quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. En fait, c'est provoqué par une attirance, le regard, une passion, désirer posséder ce que Dieu n'a pas donné. C'est synonyme d'envie, de jalousie, etc. La convoitise de la chair, Ça entre dans le domaine des désirs naturels déréglés, dont de la sexualité, et des excès de boire et de manger. C'est pour ça que Pierre dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. On a, chacun de nous, un passé. Et la Bible dit qu'il ne faut pas mettre en oubli la confession, la purification de ses anciens péchés, parce qu'ils pourraient revenir. Hein? Bon, Voltaire disait, chassez le naturel, il reviendra au galop. Nous, on sait que le vieil homme, on veut le faire mourir, mais de temps en temps, il se présente le matin, il nous surprend, ou le soir, ou dans la journée. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait presque que le chrétien, il a une double vie. Enfin, c'est dangereux de dire ça. On dirait que tout d'un coup, à l'intérieur, il dit, mais moi, je veux pas ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a de moi Satan, ou vieil homme meurt. Et puis, de notre côté, on a envie de plaire à Dieu et de vivre pour le Seigneur. Alors, on a tous ce combat, non? Ben, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. À tous égards, chacun de nous, nous avons ce combat entre le vieil homme et le nouvel homme. Et le vieil homme, la Bible dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans les moments les plus difficiles, mettons-nous à genoux, j'ai bien aimé la prière de notre frère, même quand ça va mal, il faut prier. Parce que c'est d'autant plus là qu'on en a vraiment besoin. Dieu est puissant, ce n'est pas sur la base d'un sentiment, d'une émotion, mais sur la foi en Dieu. Je prie Dieu, et puis il agit. Il agit au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Les convoitises sont trompeuses, elles induisent en erreur. Et même Jacques dit, et je vous le lis, bon, on est proche de la fin, hein, d'accord? Jacques 1, versets 14 et 15, dit ceci, et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir, il dit, mais chacun est tenté, quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfin le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, j'aimerais vous dire ceci, voilà ce qu'a dit un commentateur. Ce n'est pas réjouissant, mais je pense qu'il est proche tellement de la réalité. Il a dit ceci, le vieil homme est soumis à une corruption constante et progressive, car il se laisse toujours tromper par de nouvelles convoitises. Ça veut dire que le diable, et même le vieil homme, n'est-ce pas, qui veut marcher la main dans la main avec le diable, enfin le diable qui essaie de prendre la main de notre vieil homme pour nous faire aller, n'est-ce pas, dans la convoitise, c'est un principe qui se corrompt de façon constante et qui peut même aller dans des nouvelles convoitises. Ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir de vivre selon le vieil homme. À mort, le vieil homme. À mort, le vieil homme. C'est notre seule solution de revêtir Christ et d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre pour lui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je pense à Romains chapitre 12, vous le connaissez certainement, mais ça fait partie aussi de la sanctification, de la marche en nouveauté de vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot grec ici, c'est en fait métamorphosé. On pourrait traduire comme ça. Mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous sanctifie, Dieu nous transforme. Et en 2 Corinthiens 3, 18, je me permets de vous lire ce passage. 2 Corinthiens 3, 18, il est écrit, un merveilleux verset. Nous tous donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors quand on se voit le dimanche matin, est-ce qu'on peut aller voir le frère et la sœur et dire, waouh, t'es transformé. La gloire du Seigneur a grandi dans ta vie. Des fois ça se voit, des fois ça ne se voit pas, hein. Soyons prudents. Mais ça ne veut pas dire que dans les moments difficiles, Dieu n'est pas en train de faire une œuvre. De faire une œuvre. Alors qu'est-ce que c'est enfin, finalement, de se revêtir de l'homme nouveau? Alors j'ai marqué quelques versets, je vous le lis en résumé. Premièrement, la Bible dit en Romains 13, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Bon, il paraît qu'il y a des œuvres qui se font dans le monde où on prend les personnes, les clochards, les gens de la rue, qui ne sentent pas toujours très bon, et on les lave, n'est-ce pas? Et il y a un vestiaire où on leur donne des habits nouveaux. Mais imaginez que vous êtes un clochard, on vous a tout habillé, On vous a tout nettoyé, vous êtes très propre. Et puis vous dites, mais où sont mes affaires? Je veux remettre mes affaires. Mais c'est exactement ce qu'on fait, nous, dans la vie chrétienne. Dieu nous purifie et on marche. Puis on oublie que, ouais, mais là, je suis en train de remettre mes haillons. Je suis en train de remettre mes vieux habits. Alors que Dieu m'a lavé, purifié. Il suffit juste que je revais maintenant les habits de Jésus-Christ, qui est le caractère de Jésus, en fait. C'est pour ça que la Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Un chrétien qui marche selon l'Esprit, en nouveauté de vie, il a de la miséricorde en lui. C'est incroyable parfois, je veux dire ceci avec beaucoup de grâce, comment le cœur du croyant peut devenir dur envers les autres croyants. Mais la Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bon, quand on a ça dans le cœur, c'est bon signe. C'est que le vieil homme, il est calmé ou il est bien mort. Et on vit en nouveauté de vie. Puis Colossiens dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui vient de la perfection. Un chrétien authentique, il se caractérise par l'amour. Souriez. Si vous avez de l'amour dans votre cœur et vous le partagez aux autres, c'est bon signe. C'est que vous pratiquez la vie en nouveauté de vie. Et après, un dernier passage, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Reconnaissance, c'est toujours le même problème, hein? Toujours le même problème, l'orgueil. L'orgueil de vouloir vivre sa propre vie, l'orgueil de vouloir vivre la vie chrétienne par ses efforts. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas vivre cette nouvelle vie. Dans une justice, et je termine avec cela, si vous me permettez, une justice, une sainteté que produit la vérité. La justice, certainement accomplie parmi les hommes. La sainteté, ma relation avec Dieu, que produit la vérité. On doit aimer, frères et sœurs, la vérité plus que tout. Je sais que, bon, je vous donne cette anecdote, je n'avais pas prévu de le dire, mais une des choses sur lesquelles on a particulièrement veillé dans l'éducation de nos enfants, dès le démarrage de leur naissance, il n'y a pas de place du mensonge dans notre foyer. Il n'y a pas de place pour le mensonge. On dit la vérité, même si la vérité est difficile à dire, ou la vérité est difficile à vivre parce qu'il y a des conséquences de la vérité. Mais on dit la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas simplement dire la vérité. La vérité, c'est aussi vivre de la vérité dans le sens Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on vit vraiment de Jésus-Christ? Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que j'ai vraiment le choix dans ma vie chrétienne? Non. Dieu m'appelle à trois choses. Si je veux vivre selon Dieu, il m'appelle à trois choses. Alors, on les a regardées ici. Se dépouiller, être renouvelé dans l'esprit, de l'intelligence et revêtir l'homme nouveau. Alors, j'aimerais dire ceci, c'est que Paul... La conclusion. Paul, en Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 4, nous recommande à vivre une vie digne, toute humilité, douceur, patience, supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une marche digne. Ensuite, l'apôtre Paul nous invite à marcher de façon différente des païens, caractérisée par, n'est-ce pas, les cinq caractéristiques qu'on a vues déjà ensemble, j'y reviens pas. Et puis, troisièmement, voilà. Paul nous dit maintenant, marche en nouveauté de vie. En tant que parent, vous n'avez pas attendu quelque part que votre premier-né ou votre deuxième-né, à un moment donné, il faut que l'enfant marche. Nous, on a eu 6 enfants, on a vu des enfants marcher très rapidement et d'autres qui ont pris plus de temps. Il y en a un, il était toujours assis. Et un jour, il s'est levé, il a marché comme ça, sans pratiquer. C'est extraordinaire. Il y en a un autre, il bougeait partout, il a marché rapidement, comme ça. Donc, mais on avait tous hâte, n'est-ce pas ? En tant que parents, que nos enfants marchent. Mais l'apôtre Paul dit, marchez, frères et sœurs. Marchez dignement. Ne marchez plus selon les païens, mais marchez en nouveauté de vie. Portez des fruits dignes de la repentance, parce que Christ est votre vie. Et soyez dignes envers votre Sauveur et Seigneur, que vous avez appris, que vous avez entendu, et en qui vous avez été instruit.